Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse, Le Devoir et Reflet. Au programme, et si la colocation, c'était pour vous aussi? Des aliments frais sont contaminés par leur étiquette. Le pari risqué de Jean-Sébastien Girard. Et l'érable et le temps des sucres. Bonne écoute.
Et si la colocation, c'était pour vous aussi? Un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 18 mars 2023 dans la presse. Avez-vous déjà rêvé de vivre un jour avec vos amis dans un immeuble où vous auriez chacune votre appartement? Vous rêvez peut-être de souper ensemble une fois par semaine, d'avoir une grande cour où pourraient s'amuser les enfants que tout le monde participerait à surveiller? Je suis heureuse de vous l'apprendre, vous rêvez de vivre en communauté intentionnelle. Gabriel Anctil sait rendre son mode de vie attirant. Cet extrait est tiré de son essai « Loger à la même adresse » paru le 15 mars 2023 aux éditions XYZ. La journaliste y aborde les joies et défis d'habiter avec de nombreuses personnes. Mais on est loin des clichés de colocation étudiante, ici. Gabrielle et ses 7 colocs partagent tout de manière équitable. L'espace, les comptes, la nourriture, les objets, comme les décisions. Vivre en communauté intentionnelle, c'est choisir de s'entourer de gens avec qui on partage des valeurs, mais aussi des ressources. Ce mode de vie différent est un contrepoids à la précarité financière, à l'isolement, à la crise climatique et au difficile accès au logement qui caractérise notre époque, estime Gabriel Anctil. Plus encore, il serait agréable. Concrètement, les 8 adultes de 28 à 36 ans habitent dans 5 appartements voisins qui forment la cafétéria. Chacune des unités a des aires collectifs, chambre d'amis, gym ou salle de lavage, par exemple. L'appartement au rez-de-chaussée duplex dans lequel se déploie la majorité de la cafétéria comprend un grand salon et une cuisine commune. C'est là que j'ai retrouvé Gabriel et 4 de ses colocataires pour un de leurs soupers de groupe. 2 fois par semaine, 2 personnes ont la tâche de nourrir toutes les autres, lunch du lendemain inclus. La charge mentale et ménagère s'en trouve répartie sur toutes les épaules. Le rêve. Mais bon, devoir laver des chaudrons format X large dans un évier de taille ordinaire, ça, c'est un peu moins le rêve. Ce mardi-là, Max et Claudel avaient préparé des bols de riz au tofu magique. J'en ai profité pour me régaler et pour tenter de comprendre à qui s'adresse ce mode de vie. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas pour eux, mais les sacrifices que ça prend sont moins grands qu'ils le pensent. Répond d'emblée Gabriel Anctil, qui a cofondé la cafétéria et qui y réside depuis 14 ans. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'apprentissage, surtout des apprentissages d'intelligence émotionnelle. Ça exige d'être explicite par rapport à ce que tu as envie de faire et on n'est pas toujours très bon là-dedans. Il faut savoir non seulement exprimer ses besoins, mais aussi se remettre en question quand on empiète sur ceux des autres. Des fois, on se fait dire qu'on a fait quelque chose tout croche et on doit l'accepter. Ce n'est vraiment pas facile, mais c'est une compétence essentielle que tout le monde devrait développer, à mon avis, dit Gabriel Anctil. On devine que vivre en communauté intentionnelle exige une certaine maturité et beaucoup de flexibilité. On a un peu moins de droit de regard sur la déco ou sur ce qui traîne, admet Max, qui loge à la cafétéria depuis 5 ans. Il y a des compromis à faire, mais ça t'apporte plus que ce que tu peux penser. Il y a tout un réseau qui se construit autour de toi. Justement, est-ce qu'habiter avec autant de gens ne gruge pas l'énergie? Anaïs, locataire depuis 4 ans, me corrige. Pour elle, Vivre en communauté intentionnelle est la parfaite stratégie pour créer des relations. Je suis très introverti et je passe beaucoup de temps chez moi. Si je veux rencontrer des gens, le mieux, c'est que les gens soient chez moi. Dans « Loger à la même adresse », Gabriel Antil cite d'ailleurs des recherches qui démontrent que ce mode de vie sied particulièrement bien aux introvertis. En la lisant, on comprend qu'il est aussi une option intéressante pour les éco-anxieux. Je la cite. « Plus de 80% de la population canadienne vit en ville, selon Statistique Canada 2018. Pour faire face aux problèmes de l'avenir, il faut repenser notre manière de partager cet espace restreint, sans contribuer à l'étalement urbain. » Elle poursuit en expliquant que la cafétéria utilise 2 machines à laver pour 5 logements. Qu'il y a ici des gens qui savent à peu près tout réparer, vélos comme petits électros, et que la nourriture est achetée en vrac, ce qui réduit les emballages. Alors que les maisons sont toujours plus grandes, sa gang opte pour une manière de vivre qui lutte contre les défis auxquels on fait collectivement face. Normal, donc, que l'idée fasse de plus en plus jaser. Pourtant, elle est loin d'être neuve, comme le souligne Gabriel Antil dans son essai. Bien avant les hippies ou les communautés religieuses, des gens se sont regroupés pour vivre selon leurs propres idéaux. En fait, la première communauté intentionnelle connue dans le monde occidental remonterait à 525 avant notre ère. Alors, comment expliquer qu'on associe seulement ce mode de vie aux étudiants aujourd'hui? Les colocataires s'enflamment en entendant ma question. La pression de la monogamie, l'idéal de la famille nucléaire et les chemins tracés d'avance qui nous mènent directement vers le quotidien à deux sont tous cités comme coupables. Ça prend du culot pour choisir une autre voie, mais pour le groupe, ça se révèle payant. Je suis habitué de vivre dans de grosses colocations, mais il y a quelque chose de plus ici, me dit Claudel, une volonté de vivre et de construire quelque chose ensemble. Parlant de l'attention qui est portée aux autres, le prix de la meilleure réplique du souper revient à Marianne, qui vit à la cafétéria depuis une décennie. On aime dire que c'est comme si on était en relation polyamoureuse avec tous les gens de la cafétéria. Charmant et important, tout ça. C'était Et si la colocation, c'était pour vous aussi? Un texte de Rosémée Autonne T. Morin, paru le 18 mars 2023 dans la presse.
Les aliments frais sont contaminés par leurs étiquettes. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 23 mars 2023 dans Le Devoir. Des aliments frais, vendus au Canada, sont contaminés par un produit chimique présent dans les étiquettes des emballages, démontre une nouvelle étude réalisée par un chercheur montréalais. Le bisphénol S, BPS, est utilisé en remplacement du bisphénol A, dont l'utilisation est restreinte au Canada puisqu'il est associé au cancer de la prostate et au cancer du sein. Le BPS est toutefois lui aussi un perturbateur endocrinien, à savoir un produit chimique dont l'effet imite celui des hormones humaines. Avec tout le mouvement qui a été fait pour se débarrasser du bisphénol A, dans des applications qui sont proches de nos aliments, de retrouver le cousin bisphénol S à si grande fréquence partout comme ça, ça nous a vraiment surpris, a admis le professeur Stéphane Bayan du département des sciences des aliments et d'agrochimie de l'Université McGill. Les chercheurs ont analysé un vaste éventail d'aliments frais emballés en vente au Canada, des viandes aux produits de boulangerie-pâtisserie en passant par les fromages et les légumes. Ils ont trouvé des concentrations relativement élevées de BPS dans des étiquettes et des autocollants sur lesquels les codes-barres ou les prix sont imprimés par transfert de chaleur. La quantité décelée dépassait grandement la valeur limite autorisée par l'Union européenne pour les substances provenant des emballages qui sont en contact avec des denrées alimentaires. On imagine aisément que des aliments aient été contaminés par une étiquette apposée directement dessus, comme dans le cas de certains fruits et légumes. Mais même la mince pellicule de plastique qui recouvre certains aliments ne suffisait pas à empêcher le BPS contenu dans l'étiquette de contaminer la nourriture. On a démontré que ces pellicules fines ne servent pas du tout de barrière, a dit le professeur Bayan. Ce qu'il y a dans les étiquettes va se retrouver dans les aliments. En revanche, l'équipe n'a décelé que très peu ou pas du tout de BPS dans les pellicules, les tampons absorbants et les barquettes en plastique. Une étude publiée en 2020 par des chercheurs américains avait montré, lors d'expériences sur des souris, que le bisphénol S peut traverser la barrière placentaire et potentiellement interférer avec le développement du cerveau du bébé. Les chercheurs avaient notamment documenté une réduction de près de 80 % de la concentration de sérotonine dans le placenta et une augmentation de 3 à 5 fois de la dopamine. La sérotonine et la dopamine sont deux neurotransmetteurs impliqués dans le développement du cerveau. Pas de réglementation. Le Canada ne réglemente pas l'utilisation du BPS. Toutefois, le projet de loi S5, qui moderniserait considérablement la loi canadienne sur la protection de l'environnement, propose des changements longuement attendus par différents groupes écologistes. Cette loi dicte comment le gouvernement fédéral réglemente les produits chimiques toxiques ainsi que d'autres matières polluantes dans le but de protéger l'environnement et les personnes de leurs effets nocifs. Le point qu'on veut vraiment, vraiment pousser, c'est de ne pas refaire la même erreur, a dit le professeur Bayan. On a remplacé le BPA avec le BPS. Et là, clairement, on a une situation où il va falloir trouver un substitut. Et on veut vraiment que ça ne soit pas substitué par quelque chose qui, dans quelques années, va être à nouveau dans nos radars. La seule façon de se protéger des BPA ou des BPS serait de favoriser d'autres types de matériaux pour les contenants alimentaires, comme le verre, par exemple, qui est complètement inerte, ou le métal. Dans cette veine, lors de l'achat de viande ou de poisson, le consommateur n'aurait rien à perdre à fournir son propre contenant ou son propre emballage, comme du papier d'aluminium, en demandant que l'étiquette soit apposée dessus. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal scientifique Environmental Science and Technology. C'était « Des aliments frais sont contaminés par leurs étiquettes », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 23 mars 2023 dans Le Devoir.
Le pari risqué de Jean-Sébastien Girard, un texte de Étienne Paré, paru dans l'édition des 11 et 12 mars 2023 du journal Le Devoir. Après avoir été propulsé devant les projecteurs avec « La soirée est encore jeune », l'animateur présente son premier spectacle solo « Un garçon pas comme les autres ». À 47 ans, Jean-Sébastien Girard sait qu'il risque gros en présentant son premier spectacle, « Un garçon pas comme les autres ». Un titre tout en ambiguïté, habile clin d'œil à une chanson que d'aucuns qualifieraient de plaisir coupable, à l'image du personnage qui l'a rendu célèbre à la soirée est encore jeune. Mais, cette fois, il espère atteindre un public qui dépasse son socle radio-canadien. Pour cela, il lui a fallu apprendre à la dure un nouveau métier, celui d'humoriste, un défi beaucoup moins facile que pouvait s'imaginer au départ cet ancien snob venu du monde du théâtre. Au départ, j'allais dans toutes les directions. J'essayais de faire comme tous les humoristes et j'avais l'impression de ne pas être original. Ça a pris quelques lectures pour que je puisse trouver mon fil rouge. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'est quand ça partait de moi, raconte-t-il, attablé dans un petit restaurant italien de la petite patrie, entre deux gorgées de latte. Un latte avec un sucre de surcroît, comme pour bien masquer l'amertume. Il y a encore en Jean-Sébastien Girard cet adolescent qui boit du café sans en aimer le goût. Ce côté un peu juvénile s'exprime dans son humour qui vogue habilement entre la petite taquinerie et la moquerie plus grinçante. Et comme pour les enfants un peu trop agités mais surdoués, on finit par lui pardonner ses excès. Car on sait qu'au fond, son intention n'a jamais été de blesser. Le Jean-Sébastien Girard, dans la vraie vie, n'est au bout du compte pas si éloigné du personnage espiègle que les auditeurs ont côtoyé durant les 10 ans de la soirée est encore jeune. Comme à la radio, il ne rechigne jamais devant une blague un peu caustique sur une vieille vedette sortie des boulamites. Et oui, il s'entiche des reprises de Terre humaine et a pour meilleur ami sa propre mère. Tout cela évidemment se reflète dans ce premier one-man show très personnel, mais pas seulement, tient-il à préciser. Je vais quand même plus loin dans la confession qu'à la soirée. Ce n'est pas une conférence, mais je me permets d'être plus sérieux. Je veux quand même que les gens en retiennent quelque chose. Oui, les fans de la soirée vont retrouver certaines choses, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que je fasse des allusions à des running gags que l'on faisait en ondes. Je ne veux pas que ce soit un spectacle juste pour les initiés. Long apprentissage. La scène est aussi complètement différente de la radio. L'aspirant humoriste l'a compris durant le processus de rodage qui l'a amené à donner une 40aine de spectacles depuis cet été. Les bonnes mauvaises blagues, ça ne fonctionne pas sur scène. Alors que j'ai fait ma marque de commerce à la soirée autour des blagues un peu poches, qui allaient trop loin et des mauvais jeux de mots. J'avais toujours le public pour me huer au second degré. Ça, je n'ai pas ça sur scène. J'ai dû prendre conscience que je ne suis pas juste devant 50 hipsters au bar chez Roger, souligne cet éternel anxieux qui ne cache pas sa nervosité à quelques jours de la première médiatique. Jean-Sébastien Girard était plus qu'hésitant au départ, lorsque Patrick Rozon, de Juste pour rire, lui a offert de produire son premier one-man show. Certes, il avait eu la piqûre pour la scène lorsque les garçons de la soirée étant encore jeunes avaient présenté le spectacle Prédiction 2017 à la Place des Arts il y a 6 ans. Mais il avait aussi toujours en mémoire leur passage catastrophique au gala Comédia en 2016. Ce soir-là, les 4 garçons ont cru que l'humour irrévérencieux qui avait fait leur succès auprès de l'auditoire branchouille de Radio-Canada serait aussi charmé le public de Québec. Grave erreur. Ils sortiront de scène sous les huées de la foule qui n'avait rien du second degré cette fois. Pour être honnête, au début, j'appréhendais mes premiers spectacles en région à cause de ça. Finalement, mes salles où ça a plus ri, ça a été la Valtrie et le petit Champlain, s'étonne celui qui dit maintenant se plaire en solo sur scène. Ne pas bouder son plaisir. Jamais il n'avait envisagé auparavant d'être humoriste, encore moins quand il étudiait en théâtre à l'UQAM et qu'il se plaisait à regarder de haut tout ce qui se rapproche un tant soit peu de la culture populaire, lui qui se passionne pourtant pour les chansons de variété au rang des pâquerettes et les téléromans défraîchis. Jean-Sébastien Girard rêvait de devenir un grand comédien, mais il déchanta rapidement. « J'étais vraiment mauvais », admet-il en riant aujourd'hui avec le recul. Le lendemain de son spectacle de finissant, il se rappelle être le seul de sa cohorte à ne pas avoir été cité dans la critique du journaliste qui avait assisté à la pièce. Ultime humiliation qui s'avérera surtout une grande leçon d'humilité, Jean-Sébastien Girard n'a jamais osé ensuite auditionner pour un rôle. Il se contentera de l'ombre comme recherchiste à Radio-Canada, avant d'être repéré par Dominique Poirier, qui en fit l'un de ses chroniqueurs sur son émission l'après-midi Porte-Conseil. Sa célébrité tardive, il ne l'attendait plus, mais il en profite aujourd'hui pleinement. Jean-Sébastien Girard ne joue pas les faux artistes tourmentés qui disent détester le vedettariat, mais qui sont effrayés en réalité à l'idée de retomber dans l'anonymat. Il aime être connu, être reconnu. Il ne crache jamais sur un projet. Il se plaît autant à animer son nouveau talk show sur la première chaîne, Jeannot Barbecue, qu'à aller jouer à un jeu questionnaire ou à se confier sur sa difficile relation avec son père dans une émission à heure de grande écoute à TVA. Quand j'ai étudié en théâtre, je voulais être un genre de Roy Dupuis et me foutre de toutes ces affaires-là. Mais je ne suis tellement pas comme ça. La vérité, c'est que j'aime ça aussi aller à deux filles le matin, confesse-t-il avec beaucoup d'autodérision. Jean-Sébastien Girard est sans l'ombre d'un doute un garçon pas comme les autres. Reste à voir maintenant si, dans le milieu déjà très saturé de l'humour, il est aussi un humoriste pas comme les autres. C'était le pari risqué de Jean-Sébastien Girard, un texte de Étienne Paris, paru dans l'édition des 11 et 12 mars 2023 du journal Le Devoir. L'érable et le temps des sucres, un texte de Catherine Ferland, paru en mars 2023 dans Reflet. Saviez-vous que la lune de sucre est la jolie expression par laquelle on désignait autrefois le mois de la récolte de l'eau d'érable? Il va sans dire que cette période de quelques semaines renvoyait au dur labeur qui y était lié, puis au processus de transformation en sirop et en sucre d'érable, mais aussi, et peut-être surtout, au plaisir de déguster ensemble ces petites douceurs alors que le redoux s'installe et que l'hiver fait place au printemps. Accordons-nous une plongée dans le temps pour revisiter les débuts de cette belle tradition. Il existe des centaines de variétés d'érables dans le monde, mais c'est ici, au Québec, qu'on trouve les types les plus appropriés pour la production sucrière, dont le bien nommé érable à sucre, Acer saccharum. Mais si la ressource est abondante, encore fallait-il avoir l'idée d'en tirer quelque chose. Il y a plusieurs siècles que l'on sait récolter et transformer l'eau d'érable pour en tirer du sucre. Les Premières Nations le faisaient bien avant l'arrivée des colons européens. La plus ancienne mention écrite remonte au milieu du XVIe siècle, quand André Thévet, compagnon de voyage de Cartier, note qu'un certain arbre produit un sucre, d'autant bon goût et délicat, que le bon vin d'Orléans ou de Beaune. Faisant partie de la médecine traditionnelle autochtone, l'eau d'érable est utilisée comme fortifiant, notamment par les nations Huron-Wendat, Innu et Mi'kmaq. Les Français lui trouvent aussi de grandes vertus contre les affections pulmonaires. Et surtout, les colons saisissent rapidement son potentiel comme source de sucre, mettant à profit leur chaudron de métal pour faire bouillir longuement l'eau d'érable. En s'épaississant, elle se transforme progressivement en sirop qui, si on poursuit la cuisson, finit par atteindre une consistance granulée. Dès le XVIIe siècle, on voit apparaître les sucreries de ferme, de petits bâtiments rudimentaires situés à proximité de la maison où l'on produit juste assez de sucre pour les besoins de la famille, l'excédent étant vendu au marché. Une modeste industrie finit par se développer, si bien qu'à la fin du régime français, on produit à Montréal plus de 30 000 livres de sucre par an. Cette production persistera bien sûr après la conquête. Au début du 19e siècle, on rencontre surtout des sucreries des grands bois, de très modestes installations où un grand chaudron de fonte est suspendu à une étamperche, sorte de crémaillère faite de branches solides au-dessus d'un feu. Ce n'est que vers 1850 qu'on commence à se moderniser avec l'emploi de goudrelles d'acier, de chaudières de fer blanc, de bouilloires et d'évaporateurs de tôle à fond plat, et aussi en construisant de solides cabanes pour abriter ce matériel. C'est aussi la révolution industrielle qui donne naissance au phénomène des visites à la cabane à sucre. Et oui, bien des gens ayant quitté leur campagne natale pour aller travailler en ville sont nostalgiques et commencent à y revenir au printemps afin de participer à une partie de sucre. La cabane devient un lieu de rassemblement où, pendant quelques heures, on renoue avec le mode de vie d'antan. Nourriture, musique, danse, promenade en traîneau et, bien évidemment, tir sur la neige sont au menu. Quiconque y est déjà allé se souvient de l'odeur sucrée caractéristique qui, mêlée à celle du bacon et des fritures, fait partie de l'identité même des cabanes à sucre. Il y a déjà plus d'un siècle qu'elles font intimement partie du calendrier printanier québécois. Et vous, avez-vous prévu y aller cette année? C'était « L'érable et le temps des sucres », un texte de Catherine Ferland, paru en mars 2023 dans Reflet.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Schwartmann à la présentation et au montage.